Europe Midi, Romain Desarbres.
12h30, pile midi et demi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Demain, ça fera un an, jour pour jour, que Samuel Paty a été assassiné par décapitation par un islamiste tchétchène de 18 ans. Dès aujourd'hui, on rend hommage au professeur martyr. On va aller à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait, à Lyon, où il avait étudié. Et puis, on sera en direct avec un professeur, président du... représentant en tout cas du syndicat SNALC, qui nous dira si la situation a vraiment changé depuis un an. Cédric Jubilard est depuis ce matin dans le bureau des juges d'instruction à Toulouse. Premier interrogatoire depuis sa mise en examen pour le meurtre de sa femme, Delphine Jubilard, a disparu depuis 10 mois maintenant. Les ministres du gouvernement Castex ont la main lourde sur le nombre de conseillers. Ça coûte 160 millions d'euros chaque année. C'est le plus gros budget sous la Ve République. C'est René Dosière, le président de l'Observatoire de l'éthique publique, qui a fait le calcul. Il sera en direct avec nous dans un instant. Et puis le MMA a de plus en plus de succès en France. C'est un sport de combat plus violent que les autres, car tous les coups ou presque sont permis. Il y a un combat qui a été organisé hier soir. On va y revenir avec Axel May.
Europe 1.
Ne jamais oublier ce qui s'est passé le 16 octobre 2020, l'assassinat de Samuel Paty, professeur martyr, assassiné donc et décapité par un réfugié tchétchène de 18 ans, dont la famille avait été accueillie par la France. Plusieurs complices sont poursuivis, notamment le père de l'élève qui avait menti en disant qu'elle avait assisté au cours de Samuel Paty. On part tout de suite à Conflans-Sainte-Honorine retrouver Marion Gauthier. Marion, bonjour en direct pour Europe Midi. Bonjour Marion. Comment se passe cette journée? Dommage.
Eh bien, les élèves sont rentrés ce matin accompagnés d'une dizaine de personnels de l'académie et du SAMU. Un soutien psychologique supplémentaire pour une matinée suspendue. À 10h30 ce matin, la sonnerie a retenti, le silence s'est installé. Dans chaque classe, les professeurs ont lu un hommage à leurs collègues assassinés. Puis ils ont animé un temps d'échange, mais à la sortie du collège, les élèves n'avaient aux lèvres que l'émotion de leurs enseignants. Quelques minutes lourdes, raconte timidement Soumaya, en cinquième, accompagnée de son père.
Le texte, il parlait de Samuel Paty, il disait que c'était un homme bien, qui respectait les lois. J'ai eu envie de pleurer. La prof, elle avait l'air toute triste.
Je trouve que c'est plutôt bien que ce soit qu'on parle de ressenti et d'émotion. Probablement, là, il y a beaucoup plus de tristesse que l'année dernière. L'année dernière, il y avait la colère aussi. Mais en fait, en vérité, on n'en sort jamais, finalement.
Et le drame toujours en mémoire, la tristesse qui ne demande qu'à remonter. Mais la discrétion est toujours de mise ici, à l'image de celle d'une vingtaine d'imams venus ce matin déposer des fleurs. Moment de recueillement nécessaire, insiste Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.
En tant que musulmans, nous sommes à la fois tristes et en colère. On ne peut pas aujourd'hui tuer au nom de notre religion. Nous sommes les tenants d'une religion et nous ne sommes pas les tenants d'une idéologie politique. Et on n'oubliera pas, et toutes les années on viendra.
Et pour le moment, les cours ont repris jusqu'à 16h ce soir, dernière heure banalisée, pour un discours des enseignants et le dévoilement du mur de la liberté d'expression, des dizaines de dessins réalisés par les élèves cette semaine.
Merci Marion Gauthier, on est les tenants d'une religion et pas les tenants d'une idéologie politique, a dit cet imam. On part à présent à Lyon où Samuel Paty avait fait ses études d'hypocagne. Jean-Luc Boujon sur place, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Romain.
En direct dans le lycée Édouard Herriot. Jean-Luc, là aussi un hommage a été rendu, vous avez assisté à un cours de classe prépa où on a salué la mémoire de Samuel Paty.
Oui, effectivement, un certain professeur, après la diffusion de la chanson One de U2, puis la minute de silence, ont éprouvé le besoin de revenir sur l'assassinat de Samuel Paty avec leurs élèves. Donc, étude de caricature de Mahomet. On est revenu sur ces caricatures. On est revenu aussi sur les circonstances de l'assassinat. Mathieu Lecoute, professeur d'histoire, a passé une heure à parler de Samuel Paty avec ses élèves de classe préparatoire.
Je vous avoue que je suis encore envahi par l'émotion. Samuel Paty, je ressens une proximité avec lui. J'ai jamais connu, notamment parce qu'il a été étudiant en histoire, en hypocagne, cagne ici, comme vous, donc dans ces murs du lycée Édouard Herriot. Et c'est sûrement ici, en première ou deuxième année, qu'il a, un peu comme vous, décidé de se spécialiser dans une matière qu'il a tirée plus que les autres, l'histoire.
Effectivement, Samuel Paty a été étudiant ici entre 91 à 93, il avait alors 18 ans, il a arpenté les mêmes couloirs, s'est assis aux mêmes tables, d'où une grande proximité ressentie par ses élèves de prépa.
J'en ai pleuré, je trouve ça très touchant, parce qu'à travers cette musique, c'était directement Samuel qu'on entendait. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très touchant, et on s'est dit qu'en fait ça pourrait être nous.
Du fait qu'il y était, forcément je m'identifie un petit peu, et ne serait-ce également parce que j'ai choisi comme spécialité l'histoire, et que je me tourne vers l'enseignement. Je pense que beaucoup d'élèves aspirant à l'enseignement peuvent s'identifier à Samuel Paty. Et c'est pour ça que je considère que cet hommage est important, à la fois pour entretenir la mémoire et pour rappeler les valeurs et les méthodes qui doivent être utilisées dans l'enseignement de cette matière.
Voilà, donc un an après, c'est toujours l'émotion dans l'ancien lycée de Samuel Paty. Une plaque en sa mémoire devrait être posée dans les prochains mois dans l'aile du lycée réservée aux classes préparatoires.
Jean-Luc Boujon, en direct de Lyon. Merci beaucoup Jean-Luc. Avant de retrouver Jean-Rémy Girard du SNALC, Syndicat National des Lycées et des Collèges, j'aimerais qu'on écoute cet échange entre le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et des élèves du lycée Jean de La Fontaine à Paris et leur prof de seconde.
Pourquoi l'attentat odieux contre Samuel Paty peut être qualifié de terrorisme ?
C'est un acte terroriste car c'est une menace à ceux qui montrent justement des caricatures. Il menace et il fait peur aux gens. Et on le voit bien, il a posté sur Twitter la décapitation de Samuel Paty. Son acte est de faire peur.
La clé de la définition pour vous, c'est le fait de vouloir faire peur. Exactement, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on est en train de faire là et ce qu'on fait aujourd'hui et demain en particulier. C'est-à-dire qu'on montre, premièrement, qu'on n'a pas peur, deuxièmement, qu'on est unis. C'est deux choses qui sont fondamentales, puisque c'est précisément ça que le terrorisme cherche à abattre et cherche à créer.
On est en direct avec Jean-Rémy Girard, bonjour, du SNALC, Syndicat National des Lycées et des Collèges. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience depuis le drame du 16 octobre 2020, depuis l'assassinat par décapitation en France de Samuel Paty? Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui êtes sur le terrain et connecté avec tous vos collègues?
Ce que l'on sent, et je dirais là je parle plus en tant que syndicaliste, c'est que ce type de problème, ce type de soucis liés à la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux notamment, est quand même pris nettement plus au sérieux par notre administration aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être avant. Alors, je dis pas que tout est résolu, très loin de là, mais effectivement, on a eu à gérer, nous, en tant que SNALC, en tant que syndicat premier-second degré, des situations, pas de la même gravité, mais assez comparables en interne avec l'administration, parfois. Et effectivement, on sent qu'il y a beaucoup plus de prise au sérieux de ce qui peut se passer quand un professeur commence à voir son nom apparaître sur Facebook ou sur Twitter ou sur WhatsApp, etc.
Et ça veut dire que la direction...
Ça a bougé quand même un peu, oui.
La direction défend plus le professeur, la main tremble moins, on hésite moins, on a moins peur.
C'est pas forcément la direction, ça c'est toujours la question, hein. C'est-à-dire on peut toujours faire ce qu'on appelle le carré régalien au niveau du ministère, c'est-à-dire on va donner des directives sur accorder la protection fonctionnelle, sur le fait d'accompagner les dépôts de plainte des collègues, voire que l'institution elle-même porte plainte. Ensuite, il y a tout un tas de filtres et de prismes par lesquels ça passe jusqu'à arriver dans les écoles, les collèges et les lycées. Et là, il y a aussi des questions de personnes, hein. On a des chefs d'établissement qui n'ont pas attendu ça pour soutenir leurs équipes. On en a qui, parfois, se mouillent moins, toujours aujourd'hui. Eux-mêmes, parfois, parce que aussi, ils ne le sentent pas trop vis-à-vis de leur hiérarchie. Donc, le pas de vague, dont on a beaucoup parlé, hein, vous vous souvenez, il y a 3 ans,
oui.
Il n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. On en a pris conscience. Il y a encore beaucoup de travail parce que c'est pas quelque chose qui va s'imposer d'en haut comme ça d'un claquement de doigts.
Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, merci d'avoir été en direct avec nous et dans Europe Midi. Il est 12h39, ça fait 3 heures maintenant que Cédric Jubilard se trouve dans le bureau des juges d'instruction à Toulouse. Il est mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine qui a disparu depuis 10 mois maintenant. Benjamin Péter en direct de Toulouse. Bonjour Benjamin, c'est le premier
Bonjour,
interrogatoire Romain. Depuis sa mise en examen. Quelles sont les questions qui devraient être posées à Cédric Jubilard? Dites-nous.
Eh bien, les juges vont tout reprendre depuis le début, hein, revenir sur sa relation avec Delphine, sur ce qu'il savait de l'amant de sa femme, de leur projet aussi. Des questions aussi qui vont porter sur les projets de divorce, mais également sur la personnalité tempétueuse de Cédric Jubilard. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet interrogatoire de première comparution était réclamé depuis le début de l'été par la défense et que pour son avocat, maître Alexandre Martin, Cédric Jubilard l'attendait avec beaucoup d'impatience.
Cédric Jubilard, il est partagé entre plusieurs sentiments. Le premier, c'est l'impatience. C'est-à-dire, enfin, depuis 4 mois, enfin, on va m'entendre, je vais pouvoir répondre, m'expliquer, clamer mon innocence. Deuxième sentiment, c'est le désespoir. Il est seul, il est isolé, il ne voit plus ses enfants, il subit une détention absolument terrible. Désespéré également par la surdité de la justice. Il s'est dit, mais quand est-ce que la justice va enfin comprendre, va enfin entendre que je suis innocent? Et enfin, dernier sentiment, déterminé, combatif. Il veut expliquer, il veut dire, non, je n'ai rien fait. Et au bout du bout, il espère que la justice va enfin entendre raison.
Alors cet interrogatoire sera suivi d'un second, déjà programmé le 3 décembre prochain, où il sera question des éléments techniques, la voiture du couple, le bornage et l'utilisation des téléphones de Cédric et Delphine, mais surtout la couette qui avait été lavée par Cédric Jubilard ce soir-là, et dont on attend toujours que les analyses soient versées au dossier, mais la défense a déjà fait part de son intention de formuler une nouvelle demande de remise en liberté dans les prochains jours.
Merci beaucoup Benjamin Péter en direct de Toulouse, 12h41, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on verra avec Carole Ferry que les tests PCR, les tests antigéniques du Covid, gratuits jusqu'à hier, nous ont coûté énormément d'argent. On va faire les comptes dans un instant. Restez bien avec nous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h44, si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner, sachez que vous ne pouvez plus vous faire tester gratuitement à volonté pour bénéficier d'une sorte de passe sanitaire provisoire. Il faudra obtenir désormais, avant, une prescription médicale, sauf pour les mineurs, sinon vous payez. Carole Ferry, bonjour.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1. Carole, il faut dire que ça coûtait énormément d'argent, ces tests gratuits. Certains diraient un pognon de dingue. Hein.
Je crois que le terme est assez juste, hein, vu que ces tests ont coûté 8,8 milliards d'euros, 2,6 milliards en 2020, près de 3 fois plus cette année, en tout cas pour ce qui a été budgété pour le moment jusqu'à la fin de l'année. Et oui, parce que c'était gratuit pour nous, mais pas pour la sécurité sociale. Ouais. Alors, il faudra voir à la fin de l'année si l'enveloppe a été bien calculée, mais dans tous les cas, c'est clairement une facture très salée. Alors bien sûr, elle va diminuer l'an prochain, mais comme il y a toujours quelques tests gratuits, vous l'avez dit, pour les mineurs notamment ou les personnes vaccinées, eh bien il restera un coût pour l'assurance maladie estimé à 1,6 milliard encore en 2022.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. C'est vrai que le gratuit, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. On part en Italie à présent pour éviter une reprise de l'épidémie. Le gouvernement rend obligatoire le pass sanitaire pour les salariés. Il faut un pass pour travailler. Et il y a des grèves aujourd'hui. Blandine Hugonnet, bonjour, en direct de Rome, Blandine. Ça passe mal chez certains Italiens, hein?
Alors oui, en effet, donc des grèves non autorisées, des protestations, des blocages aussi qui ont été lancés depuis ce matin contre cette nouvelle obligation, en particulier dans le secteur des transports publics et de marchandises qui menacent de paralyser le trafic. Dans les ports italiens, par exemple, des milliers de dockers protestent en ce moment même et les anti-vaccins manifestent à nouveau cet après-midi un peu partout. Car comme 4 millions de travailleurs non vaccinés en Italie, beaucoup n'ont pas de passe sanitaire et ne peuvent donc plus travailler à partir d'aujourd'hui, à moins, bien sûr, de faire des tests tous les deux jours à leurs frais. Et finalement, eh bien, c'est ce qui a justement convaincu cet employé romain. Écoutez-le.
Je me suis fait vacciner seulement hier parce que je me sens obligé, sinon ça veut dire que je dépense 250 € par mois en test pour avoir le droit d'aller au boulot. C'est impossible. Je voulais éviter le vaccin, mais j'ai besoin de travailler.
Voilà, le gouvernement italien qui incite par cette mesure stricte à la vaccination. Depuis l'annonce de cette obligation, d'ailleurs, on est passé de 75 à 80% de vaccinés en Italie. Il faut dire que pour les travailleurs sans passe sanitaire, les sanctions italiennes sont sévères, jusqu'à 1 500 € d'amende et la suspension du salaire.
Merci beaucoup, Blandine Hugonnet, en direct de Rome, 12h47.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
René Dosière, vous n'êtes plus député socialiste, mais vous avez toujours votre calculette à portée de main. Bonjour René Dosière.
Oui, bonjour.
Vous êtes désormais président de l'Observatoire de l'éthique publique. Vous avez calculé combien coûtait la quarantaine de cabinets d'équipes ministérielles du gouvernement Castex. Réponse, 160 millions d'euros chaque année. C'est la facture la plus importante sous la 5e, hein?
Oui, tout à fait, parce que c'est le gouvernement, l'un des gouvernements les plus nombreux, et donc plus de ministres, plus de collaborateurs, avec des rémunérations qui sont toujours élevées, mais qui ont tendance à diminuer depuis ces deux dernières années.
Alors justement, combien gagne un conseiller de ministre ?
Alors, en gros, c'est 9 160 € bruts mensuels, mais il y a une différence, c'est-à-dire que les fonctionnaires, eux, sont plutôt autour de 9 400 et les contractuels, eux, sont plutôt aux alentours de 7 000.
Voilà. D'accord. Contractuels, on est de droit privé et on part quand le ministre s'en va, hein.
Oui, ouais, oui, voilà, c'est bien ça. Sûr, bien
C'est du luxe ou c'est impossible de ne pas faire appel à ses conseillers?
Non, si vous voulez, la moitié des conseillers sont issus de l'administration elle-même. Hein. Ce sont des hauts fonctionnaires, hein, je dirais, qui viennent, je dirais, en quelque sorte, accélérer leur carrière professionnelle en passant par les cabinets. S'agissant des contractuels, qui ont tendance à être de plus en plus nombreux, on s'aperçoit que ce sont de plus en plus, si vous voulez, des personnes qui sont jeunes, plutôt des partisans politiques, hein, et qui sont là pour faire la promotion du ministre, mais aussi pour, je dirais, s'initier un peu à la vie politique. Donc là, on a maintenant deux types de personnes assez différentes dans les cabinets ministériels.
Mais les ministres pourraient s'en passer, ils font plaisir à des copains, copines, enfin, ou des militants proches politiquement, ou ils pourraient s'en passer ?
S'agissant des contractuels dont je viens de parler, ce sont des copains politiques, ça c'est clair. Par contre, s'agissant des hauts fonctionnaires qui ont quand même les responsabilités les plus importantes, hein, dans les cabinets, il s'agit de gens qui ont naturellement des sympathies politiques, mais qui ont surtout le sens du service public.
René Dosière en direct avec nous. Merci beaucoup René Dosière, merci d'avoir été en direct avec nous.
Je vous en prie.
Dans Europe Midi, très bonne journée.
Au revoir.
Vous connaissez Adèle, évidemment. Rolling in the Deep, voilà, c'était en 2011, il y a 10 ans déjà. Surprise, Adèle sort un nouvel album. On vous fait découvrir le premier titre et une autre surprise musicale vous attend dans un instant avec Marie Jiquel. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h52, c'est un joli vendredi pour nos oreilles. Deux stars de la chanson font leur retour. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Romain.
Marie, ce sont des grands de la chanson qui reviennent. Hein.
Oui, ils ont tous les deux vendu des millions d'albums dans le monde. Adèle, la chanteuse britannique, nous livre Easy On Me, qui veut dire « Allez-y doucement avec moi ». Une chanson confession, Adèle revient sur son récent divorce, sa dépression et puis la célébrité qu'elle a du mal à gérer. Elle chante I was still a child avec l'accent anglais. J'étais encore une enfant. Voilà, près de 20 millions de vues en 12 heures, Romain.
20 millions de vues en 12 heures. C'est énorme. Un registre plus engagé cette fois avec Stromae. Il a sorti tôt ce matin sa nouvelle chanson.
Santé, c'est le premier titre du troisième album de Stromae. Le chanteur belge rend hommage aux invisibles, aux travailleurs de l'ombre, ceux qui ont œuvré pendant la crise sanitaire.
Si on célébrait ceux qui ne célébrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, Romain. Stromae a déjà des concerts de prévu l'été prochain en France et en Belgique.
Merci beaucoup Marie, merci Marie. Il est 12h53, le sport tout de suite avec PSG Angers, 10e journée de Ligue 1. C'est ce soir à partir de 21h, ça sera à suivre sur Europe 1. Et puis, ça fait un an et demi que c'est autorisé en France. C'est un sport qui a mauvaise réputation. Le MMA cherche à se développer. Ça reste discret. Pourquoi ? Parce que c'est très violent. Axel May, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté hier soir à un combat de MMA au Cirque d'Hiver à Paris. Hein.
Oui, alors à la place des fauves sur la piste du Cirque d'Hiver, il y avait une cage octogonale, pratique pour éviter que les athlètes ne soient projetés sur le public. Et ouais, L'ambiance était plutôt jeune et masculine. Alors, le MMA, hein, qu'on appelait autrefois le combat libre, le free fight, est un mélange d'arts martiaux, de lutte, de boxe. Écoutez attentivement, vous allez entendre le claque des coups de pied. Le petit claque. Hier, le premier combat a été arrêté sur KO, le quatrième après un bras cassé, un doigt dans l'œil a interrompu le cinquième combat, etc. Et puis, il y a la dimension frappe au sol qui peut être perturbante pour un public non averti. Rizlen Zouak est franco-marocaine, judokate, elle a participé au JO et désormais, elle pratique le MMA. Hier soir, elle s'est imposée face à une adversaire brésilienne.
Il faut savoir, les frappes au sol, il y a moins d'impact que les frappes debout. C'est moins dangereux que si je me prenais une droite debout. On n'a pas le droit de taper derrière la colonne. Quand une adversaire a les trois appuis au sol, on n'a pas le droit de donner deux coups. C'est disqualification. Il y a un vrai règlement et ce n'est pas plus dangereux qu'un autre sport.
Alors, le règlement est effectivement très complet avec une liste interminable de coups interdits. Depuis sa légalisation début 2020, le MMA est chapeauté par la Fédération française de boxe hein, et son évolution est observée de très près par le ministère des Sports. Et rien que pour le mois d'octobre, signe que c'est en train de se démocratiser. J'ai noté deux autres grosses soirées de MMA à Paris.
Vous y étiez hier soir, Axel. C'est agréable à regarder ou pas ?
Oui, c'est un certain type de spectacle. Disons que je ne conseillerais pas de jeunes enfants d'aller voir ce...
On n'y va pas en famille.
Hein. Ouais, c'est pas encore très familial.
C'est pas encore un spectacle familial. Merci beaucoup, Axel. 12h56, le temps, tout de suite.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps, la météo avec Anissa Haddadi. Anissa, la journée est un peu nuageuse, hein ?
Oui, c'est vrai que le ciel est un peu plus voilé, vous avez raison, Romain. Alors les nuages, eux, ils se trouvent sur le nord et le nord-est de la France cet après-midi, où là, ça s'épaissit, hein, clairement, sur le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes et jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Là, on a un ciel un petit peu plus couvert, avec quelques gouttes possibles sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un voile nuageux qui rend le ciel un petit peu laiteux cet après-midi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se dégage, et ça se dégage le long de la façade atlantique, entre la Bretagne et le Pays Basque. Là, le ciel est de moins en moins voilé et le soleil prend de plus en plus de place. Donc au bord de l'Atlantique, vous allez avoir droit à un bel après-midi. Alors les températures, cet après-midi, elles sont de saison, quasiment comme hier. 15 degrés à Dunkerque, 16 à Dijon, Metz et Lille, 18 degrés à Paris et Bordeaux. Nous avons 19 degrés à Lorient et Manosque, 20 degrés à Nice, 22 à Marseille et Bastia et 23, la maximale pour Carcassonne. Sur la Corse, malgré le soleil, on a toujours ce vent d'ouest qui souffle aujourd'hui jusqu'à 70 km/h.
Merci beaucoup Anissa, 12h57. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Nous, on se retrouve lundi pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.